Bonjour. François Hollande s'immisce dans le débat sur la loi travail. Il ne faudrait pas demander aux Français des sacrifices qui ne sont pas utiles, a lancé l'ancien président. Un tacle après 3 mois de silence médiatique, moyennement apprécié par l'Élysée. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron s'envole pour une mini-tournée européenne. Objectif, convaincre les pays d'Europe de l'Est de durcir la directive sur les travailleurs détachés. Les supporters de Donald Trump réunis à Phoenix, Arizona, le président américain s'est offert un bain de foule et ça n'a rien d'étonnant, il ne regrette aucun de ses propos sur les suprémacistes blancs. En Espagne, une semaine après les attentats de Catalogne, on n'en sait plus sur les projets planifiés par la cellule terroriste, des attaques à la bombe de grande ampleur. 4 suspects ont été inculpés hier et 3 écroués. Qu'y a-t-il dans la tête des djihadistes? On en parle avec votre invité Nicolas.
Oui, à 8h20, le psychanalyste Fethi Benslama sera au micro de France Inter. Vos appels, vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000. Vous avez la parole à 8h40.
France Inter. 3 mois de silence et un tacle. François Hollande n'avait pas dit un mot depuis l'élection d'Emmanuel Macron. En pleine concertation sur la réforme du Code du travail, l'ancien président a dû estimer que le moment était venu de mettre son grain de sel dans le quinquennat de son ex-ministre et protégé. Rappelant qu'il avait laissé le pays en bonne santé économique, François Hollande s'est fendu de quelques conseils.
Il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Il faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures.
François Hollande en marge hier du Festival du film d'Angoulême, une sortie impromptue qui passe assez mal du côté de l'Élysée. Cyril Graziani.
Coucou, le revoilà. François Hollande aura finalement tenu un peu plus de 100 jours avant d'adresser cette sévère mise en garde à son successeur, comme si l'ex-président ressortait le vieux costume du professeur face à celui qui fut jadis, en tout cas il l'a toujours considéré ainsi, son élève. Il n'a aucune décence, réagit l'entourage d'Emmanuel Macron, il a oublié ce qu'il nous a laissé. Ses 8 milliards de dettes, renchérit un conseiller de Matignon. C'est justement ça que François Hollande n'a pas digéré, cet héritage, ces dettes imputées avant l'été par l'exécutif à son quinquennat. Alors fort des derniers résultats économiques dans le vert, François Hollande a voulu rappeler à son successeur que sa politique portait ses fruits, l'invitant même à inscrire son action dans la continuité de la sienne. François Hollande prend néanmoins le risque d'apparaître comme un donneur de leçons. D'ailleurs, certains de ses amis fidèles parmi les fidèles ne cautionnent pas cette sortie, mais surtout l'ancien président socialiste semble vouloir occuper une place qui n'est pour l'instant trustée que par Jean-Luc Mélenchon, celle d'opposant numéro 1 à Emmanuel Macron.
Et pendant ce temps-là, justement, Emmanuel Macron entame une mini-tournée de 3 jours en Europe, en Autriche, Roumanie et Bulgarie précisément. Au menu des discussions, renforcer la directive sur les travailleurs détachés. Ces salariés qui peuvent aller travailler dans n'importe quel pays d'Europe pour une mission temporaire. C'est la fameuse figure du plombier polonais. Car les règles actuelles n'empêchent pas certaines entreprises de frauder, créant ainsi une concurrence déloyale avec les salariés français. Alors les travailleurs détachés sont payés au salaire minimum, mais leurs cotisations sociales doivent être versées dans leur pays d'origine. Avec près de 300 000 travailleurs détachés, la France est le pays qui en accueille le plus, derrière l'Allemagne. Ils viennent essentiellement des pays de l'Est, la plupart travaillent dans le bâtiment. Et les professionnels du BTP sont eux aussi favorables à un durcissement de la réglementation. Yann Gallic.
Patron d'une PME familiale installée en Isère, Jacques Chanu emploie une centaine de salariés. Il a déjà eu recours par le passé à des travailleurs détachés sur certains chantiers, mais aujourd'hui c'est terminé, dit-il, car ce système génère trop de fraudes.
Si je fais travailler en sous-traitance une entreprise étrangère, je ne peux pas avoir la certitude que l'administration dans le pays d'origine a bien vérifié et donc certifie que les ouvriers qui seraient détachés en France sur un chantier sont bien payés au minimum, qu'il n'y ait pas de déduction de leurs différents frais, qu'ils sont payés bien par rapport à leur qualification. Bref, je n'ai pas cette garantie que tout est fait dans les règles.
Également président de la Fédération française du bâtiment, Jacques Chanu réclame plus de contrôle et surtout une véritable coopération entre les pays européens.
Si vous avez un contrôle sur un chantier français, avec, imaginons, une entreprise roumaine, si l'administration roumaine met 6 mois à répondre à l'administration française pour avoir des éléments quant à la légalité du détachement, alors que l'on sait que parallèlement le détachement dans le bâtiment dure entre 50 et 60 jours, sincèrement c'est pas sérieux. Il est important que les pays de l'Est comprennent bien que la coopération semble être la seule solution pour que le détachement retrouve ses lettres de noblesse.
En France, il y aurait environ 100 000 travailleurs détachés dans le secteur du bâtiment, soit près de 10% des effectifs.
Confirmant une information des Échos, le gouvernement annonce qu'il engagera en 2018 le transfert des cotisations salariales vers la CSG. Objectif, redonner 7 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux actifs. Selon Bercy, cette mesure a pour objectif de répartir plus équitablement le financement de la protection sociale. L'exécutif estime que la suppression des cotisations salariales maladie et chômage en 2018 donnera un gain de 260 euros par an pour un salarié au SMIC. Après la claque des élections présidentielles et législatives, avec la déroute de leur leader François Fillon, les Républicains entament leur recomposition. Ce week-end dans le Pas-de-Calais, ce sera le traditionnel campus des jeunes Républicains et le début des grandes manœuvres en vue de l'élection du prochain président des LR, les 10 et 17 décembre. Audrey Morelato.
Le grand favori, Laurent Wauquiez, veut attendre le mois de septembre pour une annonce officielle et il devrait être le seul ténor du parti à briguer la présidence. François Baroin, Valérie Pécresse ou encore Xavier Bertrand ayant décliné, Bruno Retailleau, lui, ne voulant pas franchement abandonner son siège de président de groupe au Sénat. Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, trésorier du parti, devrait lui annoncer sa candidature ce week-end dans son fief du Touquet. Alors ce ne sera pas une grande surprise, il l'a déjà évoqué à plusieurs reprises et sa campagne a même commencé cet été avec son mouvement Sauvons la droite. Face à eux, la seule candidate déjà connue se fait justement surnommer l'inconnue. Laurence Saillez est la seule à s'être officiellement déclarée et ça dès le début de l'été. Reste plusieurs indécis, Florence Portelli, ancienne porte-parole de François Fillon, pourrait se lancer. De même que Virginie Calmel, adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Il reste donc encore des surprises possibles. Les candidats ont en tout cas jusqu'au 11 octobre pour obtenir leur parrainage.
Et s'il y en a un qui ne sera pas candidat, c'est François Fillon. L'ancien Premier ministre va rejoindre la société de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital en tant qu'associé à partir du 1er septembre.
France Inter 8h07, Corinne. C'était il y a une semaine après Paris, Londres, Berlin, Barcelone était à son tour frappé par l'organisation État islamique.
Oui, les deux attentats à la voiture Bélier commis en Catalogne ont fait 15 victimes et des centaines de blessés. Depuis l'inculpation hier des 4 suspects encore en vie, on en sait un peu plus sur leurs projets initiaux. Une attaque à la bombe de grande envergure contre plusieurs monuments, dont la basilique de la Sagrada Familia. C'est ce qu'a expliqué au juge l'un des suspects. La plupart des membres de la cellule terroriste habitaient à Ripoll, petite ville de 11 000 habitants, au pied des Pyrénées. Thibault Lefebvre a rencontré Rachid Oukabir. Il est le cousin de Moussa Oukabir, 17 ans, mort dans l'attaque, et de Driss Oukabir, 28 ans, incarcéré hier. On écoute son reportage.
Un paquet de cigarettes dans la main, un briquet dans l'autre. Rachid Oukabir attend un ami sur la place centrale du village. Le soir des attentats de Barcelone et de Cambrils, il était au même endroit avec son cousin.
J'étais avec Driss là devant la mairie. Jusqu'à 3h30, on est parti à la maison. Je lui ai dit, toi, monte à la maison à manger quelque chose. Il m'a dit, non, je vais chercher des cigarettes et je reviens. J'ai vu la télé, j'ai vu son photo. Je l'ai appelé Driss. T'as fait un attentat à Barcelone ou quoi? T'es où là? Il m'a dit, bon, je vais à la brigade de Pilos, moi. Je vais là-bas et après, on se verra après. C'est pas un terroriste, Driss, il connaît rien. La vraie histoire, on la connaît pas encore.
Selon Rachid Oukabir, les petits frères ont manipulé les plus grands. Moussa aurait ainsi volé les papiers d'identité de Driss pour louer les fourgonnettes. Des petits frères sous l'influence d'un homme beaucoup plus vieux, l'imam Abdelbaki Essati.
Et après, les petits seulement. Ils ont lavé la tête et il y a les gens qui vont à la mosquée 10 minutes, un quart d'heure, ils sortent de la mosquée et tous les jours là, ils gardent le petit jusqu'à la fin. Driss Oukabir, il ne va pas à la mosquée, je te le dis, bon, franchement, j'étais avec lui tout le ramadan et il ne va pas à la mosquée.
Driss Oukabir a comparu hier avec 3 autres suspects, il est mis en examen pour assassinat terroriste et écroué.
Et précisons que 3 des inculpés ont été incarcérés, un 4e a été remis en liberté sous contrôle judiciaire au vu de la minceur des charges qui pèsent contre lui. Donald Trump en terrain conquis face à ses supporters, c'était il y a 3 heures à Phoenix, Arizona. Le président américain tenait un meeting devant des milliers de fans après la polémique déclenchée par ses propos ambigus sur les suprémacistes blancs. Il n'a pas fait de mea culpa, ce n'est pas vraiment le genre de la maison. Philippe Randé.
Donald Trump a donc retrouvé son rôle préféré, amuseur public à tendance pyromane. Le 45e président des États-Unis n'a pas hésité à prêcher l'amour de tous les Américains sans exception, tout en faisant violemment huer ce qu'il appelle les médias malhonnêtes, des médias qu'il a accusés d'avoir trahi ses propos sur Charlottesville. Donald Trump qui s'est défendu de tout racisme. Notre mouvement est basé sur l'amour et ce qui s'est passé à Charlottesville a frappé le cœur de l'Amérique. Ce soir, toute cette salle est unie pour dénoncer totalement les voyous qui diffusent la haine et la violence. Donald Trump qui a rappelé sa volonté de construire le mur à la frontière avec le Mexique, il a également fait un clin d'œil appuyé à l'ancien shérif Joe Arpaio, héros des Américains hostiles à l'immigration. Joe Arpaio condamné pour avoir enfreint la loi en pourchassant excessivement des sans-papiers et qui espérait bénéficier d'une grâce présidentielle. Sachant le sujet explosif, la Maison-Blanche avait pris les devants en annonçant avant le meeting que le président n'accorderait pas cette grâce. Mais Donald Trump, provocateur en chef, n'a pas hésité à soutenir le shérif en prédisant, je cite, qu'il n'a pas à s'en faire et que tout se passera bien pour lui. Washington, Philippe Rendez, France Inter.
Donald Trump, qui estime par ailleurs que sa rhétorique agressive envers la Corée du Nord commence à payer. Certains ont dit que j'y allais trop fort, mais Kim Jong-un commence à nous respecter, a-t-il déclaré.
8h11, Corinne, 264 cornes de rhinocéros mises en vente aux enchères à partir d'aujourd'hui.
Oui, c'est légal et ça se passe en Afrique du Sud. Alors le commerce international des cornes de rhinocéros est interdit, mais l'éleveur de rhinocéros John Hume a réussi à faire lever le moratoire sur les ventes dans le pays. Considéré comme un remède dans certains pays d'Asie, la corne de rhinocéros fait la fortune des braconniers, un commerce qui menace bien sûr l'espèce de disparition. L'éleveur affirme que cette vente légale devrait freiner le braconnage en faisant baisser les prix. Une analyse que ne partage pas Tanguy Salin de l'association Save the Rhino. Il répond à Martin Delacoux.
On estime que le kilo de corne se vend entre 50 000 et 60 000 dollars. Mais le kilo d'ivoire des éléphants ne vaut que 2 000 dollars. Et ça n'empêche que les éléphants sont braconnés encore plus que les rhinocéros. Donc il ne suffit pas de baisser les prix, même de manière significative, pour dire que d'un seul coup, le braconnage va arrêter. Il y a des réseaux criminels. Ils ne vont pas renoncer à leur part du gâteau sous prétexte que d'un seul coup, on introduit des cornes légalement. Et puis, il y a un autre problème dans la démarche de John Hume, c'est que lui parle des rhinocéros d'élevage, dont il coupe les cornes tous les 2-3 ans, puisque la corne repousse, c'est de la kératine, comme nos cheveux, comme nos ongles. Mais qu'en est-il des rhinocéros sauvages, qui sont les plus menacés? Ces rhinocéros ne bénéficieront absolument pas du genre de protection que peut garantir John Hume aux siens, avec l'argent éventuel de ce genre de vente.
Et si ça vous passionne, les cornes de rhinocéros et cette espèce menacée, c'est un dossier à retrouver sur franceinter.fr. Il affirmait avoir débarqué en Normandie le 6 juin 44. En juin dernier, Georges Klein, 96 ans, était invité aux commémorations du 73e anniversaire du débarquement, signant des centaines d'autographes, mais le vétéran américain avait tout inventé. Georges Klein a fini par confesser la vérité, même si elle est moins glorieuse que la légende. Marcelin Robine, de France Bleu Haute-Normandie.
Georges Klein est l'invité d'honneur de ces commémorations. L'association Didée Overlord avait récolté les fonds nécessaires pour prendre en charge le retour du héros américain. L'homme se prête au jeu des selfies et des autographes. Il raconte avec beaucoup de détails sa vision du débarquement. Une version totalement inventée, puisque l'homme est en Irlande du Nord avec son régiment d'artillerie le jour J. Le président de Didée Overlord, Marc Laurenceau, explique que le vétéran a été pris dans un mensonge dont il ne pouvait plus s'échapper. Il s'est donc résolu à dire la vérité à ses proches et aux organisations qui l'ont soutenu. Georges Klein a tout de même participé au combat de la Seconde Guerre mondiale. Il avait même été gravement blessé en Moselle le 17 novembre 1944. Mais la frustration de ne pas avoir combattu sur les plages normandes a probablement renforcé la tentation de mentir, selon l'association Didée Overlord.
Et puis c'est encore raté pour les Françaises. L'équipe de France féminine de rugby a chuté hier en demi-finale de la Coupe du Monde, battue 20-3 par l'Angleterre. Les Anglaises qui retrouveront samedi la Nouvelle-Zélande en finale. Un thriller psychologique sur fond de guerre de sécession, ça vous dit ?
Ah oui, avec plaisir.
Eh bien c'est le dernier film de Sofia Coppola, Les Proies, sort aujourd'hui en salle, récompensé du prix de la mise en scène lors du dernier festival de Cannes. C'est un remake du film de Don Siegel avec un casting haut de gamme. Nicole Kidman y incarne une directrice de pensionnat qui voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'un soldat blessé. Corinne Pellissier.
Colin Farrell, en bien mauvaise posture dans cette adaptation vénéneuse à souhait du roman de Thomas Cullinan. Le calvaire d'un soldat blessé pendant la guerre dans le sud profond de la Virginie, recueilli par une communauté de femmes dont le quotidien va très vite basculer sous l'effet des rivalités et de la jalousie. Après 5 années passées loin des caméras, Sofia Coppola signe avec Les Proies, un film très noir, en forme d'hommage au roman gothique. Des paysages plongés sous d'épaisses nappes de brouillard, du gore et des personnages hystériques assoiffés de vengeance, à l'image de Nicole Kidman dans le rôle de Miss Martha, la directrice du pensionnat. Jubilatoire et pervers, très loin des précédents films de la réalisatrice.
Les effets spéciaux avec du sang partout, les os brisés, ce n'est pas trop mon truc à la base. Je me suis forcée à aller vers le gore, pareil pour les scènes de sexe. D'habitude, je ne vais pas aussi loin dans la tension. Mais c'est amusant de se lancer dans un thriller gothique.
Au casting, plusieurs des comédiennes fétiches de Sofia Coppola, Kirsten Dunst, Elle Fanning, pour un remake filmé cette fois-ci d'un point de vue exclusivement féminin. Don Siegel, en 71, avait déjà adapté Les Proies pour le cinéma avec Clint Eastwood dans le rôle du soldat.
Voilà Les Proies de Sofia Coppola en salle cette semaine. Et à ne pas oublier, bien sûr, non plus à l'affiche, 120 battements par minute de Robin Campillo.
Merci Corinne Audouin.